Bonsoir, ce sera sûrement la star du Salon du Bourget qui démarre dans quelques jours, le spationaute Thomas Pesquet. Oui, l'espace en général, hein, qui sera l'une des vedettes de ce grand rendez-vous qui se tient tous les deux ans. Oui, parce que là aussi, l'heure est au renouvellement, justement, avec de nouveaux acteurs, plus jeunes, plus de privés, moins d'État. L'espace qui devient, eh bien, accessible, abordable. Il y a des nouveaux satellites également, électriques, moins gourmands. Des nanosatellites de la taille d'une boîte de chaussures. Et puis là aussi se greffe, eh bien, une nouvelle géopolitique de l'espace. Alors peut-on parler de nouvel âge spatial? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Avec Xavier Pascaud, président de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui publie Le Nouvel Âge Spatial de la Guerre Froide au New Space. Avec nous également un passionné d'espace, qui est Nicolas Bouzou, donc, qui dirige le cabinet d'études économiques Asterès. Avec nous également, Johan Leroy, le directeur général délégué d'Eutelsat, hein, qui est le numéro 3 mondial du secteur, qui fête ses 40 ans, Eutelsat, ou presque, non, pas tout à fait encore. Vous êtes également directeur technique d'Eutelsat. Alors, Xavier Pascaud, donc, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt, le nouvel âge spatial, en pleine guerre froide. Nous, le lancement du satellite Sputnik 1957, hein, issu donc du système, du complexe industriel créé par l'URSS. C'est un traumatisme aux États-Unis qui répliquera l'année suivante en créant la NASA. Et puis, quelques années plus tard, 1962, c'est le général de Gaulle qui s'y mettra, qui lancera le CNES, justement. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer au travers de ce nouvel âge spatial? Sacré changement de paysage, hein, depuis 50 ans.
Voilà, changement de paysage, vous l'avez dit, hein, l'espace est né après la Seconde Guerre mondiale, l'espace est né du nucléaire, l'espace est né d'une peur panique des nouveaux missiles équipés d'une éventuelle arme nucléaire, et on s'est dit, finalement, le prochain Pearl Harbor sera un Pearl Harbor totalement définitif, et donc il faut absolument savoir ce que fait l'adversaire. On se rappelle de l'époque, ce sont deux blocs qui s'affrontent et qui doivent s'observer, et ça conduira à la dissuasion mutuelle. Et pour assurer cette dissuasion, un instrument qu'on a privilégié, c'est l'espace, parce qu'on s'est dit, ben, le seul moyen de savoir ce qui se passe de l'autre côté, c'est d'envoyer des satellites. Alors, on n'appelait pas ça à l'époque.
Non.
On avait un peu fait le calcul que si on envoyait un objet très haut et très avec suffisamment de vitesse, eh bien, ça survolerait le pays, on verrait pas mal de choses. Et ça s'est fait. Dès les années 50, hein, dès les années 55, les États-Unis imaginent le premier satellite espion. Les premières images de satellites d'observation à des fins militaires, seront diffusées en 1960. Donc tout ça préfigure, et on va avoir une masse d'investissements considérables, et les industriels qui vont aller avec. Tout ça préfigure un secteur spatial très lié au gouvernement, à l'étatique, aux relations internationales, aux relations stratégiques. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un peu quitté ce contexte géopolitique, on le sait, depuis maintenant pas mal d'années, et ben, le spatial, qui était configuré autour de ça, ben, suit logiquement un certain nombre d'évolutions.
Ouais, c'est vrai, Nicolas Bouzou, comme nous le dit Xavier Pascaud, dès le départ, la puissance publique, elle est omniprésente, hein, elle est partout, hein, justement. C'était un outil d'influence également, il y a eu beaucoup de communication politique, hein. C'est après que l'utilité viendra, qu'on se dira vraiment, voilà, ça sert à téléphoner, ça sert à observer des zones agricoles, etc. quoi.
Oui. Et aujourd'hui, on est au début de quelque chose qui est encore nouveau et que je remets. Je ne suis pas un spécialiste de l'espace. Je m'intéresse à l'innovation, à la croissance. J'ai beaucoup réfléchi et écrit là-dessus depuis des années. Et si je m'intéresse spécifiquement à l'espace depuis quelques années, c'est parce que dans toutes les grandes mutations technologiques, celles qu'on connaît aujourd'hui, la révolution industrielle du 19e siècle, la Renaissance, l'Antiquité, je pourrais toutes les faire. Vous avez deux dimensions qui sont très importantes. La dimension du temps et la dimension de l'espace. C'est-à-dire que dans toutes ces révolutions technologiques, vous avez des innovations qui permettent de vivre plus longtemps, c'est la dimension du temps, et de se déplacer plus vite et d'aller plus loin, c'est la dimension de l'espace. Et toutes ces histoires d'innovation dans le domaine spatial, et notamment ce dont on va sans doute parler, ce qu'on appelle le New Space, c'est-à-dire, grosso modo, puisque vous parlez, Fabrice, de l'articulation entre le secteur public et le secteur privé, il y avait beaucoup de secteurs publics par le passé et peu de secteurs privés. Il y a toujours beaucoup de secteurs publics, mais il y a de plus en plus de secteurs privés. C'est ça, au fond.
C'est ce que vous avez expliqué récemment dans l'Express, Nicolas Bouzou.
Oui.
Vous parlez d'une désétatisation du secteur spatial.
Exactement.
Même si le secteur spatial est quand même
largement encore dominé par le public, à plus de 80%.
Dominé par le public, même quand il est privé, il est subventionné par le public, que ce soit des subventions directes ou des subventions cachées. Mais ce que je veux dire par là, alors vous inquiétez pas, je vais absolument pas vous infliger un cours d'histoire, mais l'Antiquité, c'est le début de la mondialisation et Hippocrate. Vous voyez, l'espace et le temps. La Renaissance, c'est les grandes découvertes et le début de la chirurgie moderne. Ambroise Paré, l'espace et le temps. Le 19e siècle, c'est les grands moyens de transport. Le bateau à vapeur, le train à vapeur et Pasteur. L'espace, le temps. Ben aujourd'hui, vous avez d'un côté énormément d'innovations dans le domaine de la santé, dans le domaine de la cancérologie, la neurobiologie. Vous avez le temps. Et vous avez toute cette révolution de l'espace qui part au fond d'Uber, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se déplace mieux à l'intérieur des villes, jusqu'à Elon Musk, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pousse plus loin les frontières de l'espace. Et c'est pour ça que je trouve que ce sujet est absolument passionnant. Et si on comprend que on a eu d'un côté, en effet, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, un début de désétatisation de l'espace, pardonnez-moi, c'est pas très joli, mais aussi des nouvelles technologies qui permettent de diminuer les coûts de production dans le spatial, et notamment dans le domaine des lanceurs spatiaux, eh bien, vous comprenez, en tout cas, je crois qu'il est en train de se passer quelque chose de très nouveau dans l'espace. Cette nouvelle mutation technologique, elle va avoir une dimension spatiale très importante.
C'est quoi, juste, je vous donne la parole dans un instant, Johan Leroy de Telsat, mais Xavier Pascaux, c'est quoi ce qu'on appelle le New Space? C'est grâce à cette désétatisation qu'on a vu apparaître, donc des nouveaux acteurs?
Le New Space, alors d'abord on devrait parler des New Space, mais on y reviendra, il y a différentes manières de financer l'espace aujourd'hui, mais le New Space, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure. Le New Space, finalement, en tout cas aux États-Unis, on peut retracer sa généalogie jusque dans les années 90. C'est le moment où les États-Unis, qui ont développé cet outil considérable spatial sur fonds publics à des fins politiques, à des fins gouvernementales, ont le besoin de reconvertir finalement tout ça. Et les années 90 sont les premières années où on commence à déléguer au privé un certain nombre d'activités qui se faisaient avant, même parfois par les militaires, par exemple l'observation de la Terre très précise. Et là, on va commencer à créer des sociétés très en lien avec les États, bien sûr, très en lien avec l'État américain, mais on va commencer à créer ces sociétés pour essayer de reconvertir finalement cette puissance strictement militaire jusqu'à présent, strictement régalienne, en une puissance qui demeure régalienne, mais qui soit aussi une puissance économique et technologique. Et aujourd'hui, le New Space, finalement, c'est une nouvelle génération qui arrive sur un terrain qui a été préparé par ces années 90 et qui, du coup, y trouve matière à s'exprimer.
Oui, Yann Leroy, Eutelsat.
Peut-être ce qu'on pourrait signaler, c'est que la part que joue le public dans l'industrie spatiale varie fortement suivant le type d'application que l'on regarde. L'État, enfin les gouvernements, la puissance publique sont très présents sur l'observation, sur la navigation, GPS, Galiléo, sont très présents sur la partie industrielle pour supporter les développements technologiques qui sont nécessaires tant du côté des lanceurs que des satellites eux-mêmes. En revanche, sur le secteur sur lequel Eutelsat s'est développé au cours des 40 dernières années, que sont les télécommunications spatiales, l'État est plutôt un utilisateur de ces services, d'une partie de ces services, et ce domaine a réussi à se développer de lui-même grâce au formidable essor de la télévision par satellite.
Ouais, et d'ailleurs, ce qu'on va dire, hein, là aujourd'hui dans le monde, il y a 40 000 chaînes de télévision, hein, justement. Vous, c'est l'un de vos points forts chez Eutelsat, les deux tiers de votre chiffre d'affaires, c'est justement eh bien, de véhiculer, de distribuer de la télévision.
Exactement, c'est deux tiers de notre chiffre d'affaires, juste pour fixer les esprits, c'est 300 millions de foyers dans le monde, plus d'un milliard de personnes dans le monde qui reçoivent la télévision directement ou indirectement grâce à un satellite d'Eutelsat.
40 000 chaînes par an et plus 5% chaque année. Voilà, on consomme de plus en plus de télé. Nicolas Bouzou et Xavier Pascaux qui revient.
C'est fondamental de bien expliquer aux Français que l'espace, c'est pas simplement en effet quelque chose qui est ésotérique. Cette dimension est très importante. Oui. Hein, on pourra y revenir. Le progrès, je trouve que. Mais c'est quelque chose qui existe déjà dans leur vie quotidienne. L'un des secteurs qui existe, qui utilise le plus les technologies spatiales, et c'est très intéressant parce que c'est un secteur dont les Français ont une image qui est une image un peu romantique, un peu passive, c'est l'agriculture, bien évidemment.
Bah oui, les agriculteurs. Spécialement.
Et ouais, les agriculteurs, vous pouvez pas les priver des technologies spatiales parce que pour prévoir le climat, pour faire ce qu'on appelle de l'agriculture de précision, on a besoin justement de satellites. Et il faut bien comprendre que avec la baisse du coût des lancements spatiaux, les coûts des lancements spatiaux ont baissé, mais ça va s'accentuer, voilà, sur des raisons pour lesquelles on pourra revenir, on va avoir de plus en plus d'innovations dans le secteur du spatial. C'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus de secteurs sur Terre, hein, on parle bien d'économie terrienne, mais dont la productivité va être alimentée par des technologies spatiales.
Alors Xavier Pascaud, donc auteur du Nouvel Âge Spatial, pardon, là, tout le monde veut parler, c'est passionnant.
Mais non, pour rebondir sur ce qui a été dit,
Zéon Leroy de TechSat.
C'est très important parce qu'en fait, le secteur des télécommunications dans le domaine spatial a été le premier secteur de facto qui a vraiment développé une activité vraiment commerciale et pourquoi ? Parce que c'est le premier secteur qui a fait se rencontrer la technologie spatiale et les technologies de l'information. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit finalement qui va infuser les autres secteurs dans les autres ? C'est cette rencontre qui se poursuit et qui s'accélère, parce que l'écosystème aujourd'hui, et notamment Internet, on le sait, etc., eh bien, est devenu, je dirais, mûr d'une certaine manière pour faire de ces technologies spatiales des technologies clés pour leur développement.
C'est grâce à l'Internet que le spatial s'est autant développé. Même l'Internet dans les années 70, hein, donc aux mains des États-Unis, sans parler de l'Internet, évidemment, d'aujourd'hui, parce que on voit la dernière tendance, c'est aussi de fournir du web via des constellations de petits satellites. Hein.
Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la chaîne de l'information est devenue clé. Collecter de l'information, collecter de la donnée, l'exploiter, la transmettre, la disséminer, tout ça est clé, et le spatial joue un rôle clé dedans. Et vu des gouvernements, vu des États, du coup, le spatial prend du sens politique. Le spatial répond à un projet politique qui sous-tend cette maîtrise de la chaîne de l'information. Aujourd'hui, c'est un enjeu clé, un enjeu stratégique, un enjeu industriel, un enjeu politique. Et on le sait, aujourd'hui, le spatial, c'est quelque chose qui permet de soutenir cet enjeu. Et les États-Unis se disent, eh bien, très bien, je joue un jeu dont j'ai écrit les règles d'une certaine manière, et je les ai écrites dès les années 80.
Il y a une bonne trentaine d'années.
Et on est sur une lancée, on est dans une vitesse acquise. Ça, c'est très important à comprendre.
Yoann Leroy, Eutelsat.
Ce que je vous avais signalé, c'est que les satellites qu'on fabriquait dans les années 90, dans les années 2000, étaient parfaitement adaptés à la diffusion de la télévision. Pourquoi parfaitement adapté ? Parce que le coût de diffusion est un coût fixe. Donc que vous desserviez 1 million de personnes ou 10 millions de personnes, ce coût est le même. Ces satellites-là, n'étaient pas adaptés à la fourniture de l'accès à Internet, qui est un mode de communication complètement différent par rapport à celui de la télévision. La télévision envoie le même signal à tout le monde, alors que l'accès à Internet, c'est une interaction constante entre quelqu'un qui fait une requête et une autre personne qui répond à la requête, même si c'est un serveur. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les progrès technologiques qui sont en cours, qui sont intervenus au cours des dernières années, qui vont arriver dans les années qui viennent, vont permettre d'aller chercher cette nouvelle frontière pour les opérateurs de télécommunications, qui est fournir une connexion Internet aux milliards de personnes qui sont aujourd'hui privées de connexion, faute d'infrastructures terrestres disponibles pour le faire.
Oui, mais là, ce que vous dites sur la télévision, aussi, le modèle va changer, parce que maintenant, de plus en plus, avec la télé connectée, il y aura une interaction avec la télévision, donc il faudra encore plus de canaux pour quelque part que ça réponde. Hein.
Tout à fait. C'est à la fois, ce que l'on voit, c'est que l'Internet n'est pas contre la télévision, renforce plutôt la télévision. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est d'introduire la couche d'interactivité de la télévision, parce que les modes de consommation de la vidéo évoluent, et c'est grâce aux progrès technologiques des satellites qu'on sera en mesure de répondre à ce nouvel enjeu.
Alors, on verra justement, on parlera, je le disais, des satellites électriques que vous avez lancé là récemment,
donc
il y a 15 jours, exactement, début juin. Puis on parlera aussi des nanosatellites qui sont grands comme des boîtes de chaussures, hein, justement, on verra à quoi ça sert. Simplement, cette désétatisation de l'espace, c'est grâce à cette désétatisation. J'ai vraiment du mal.
Moi aussi, j'ai du mal. Je suis vraiment désolé d'avoir introduit ce terme.
Ah non, Nicolas, c'est
la
moche,
montée du secteur,
Nicolas. Voilà. Bon, c'est grâce à ça, quelque part, que des startups, finalement, comme SpaceX d'Elon Musk, ou Jeff Bezos, qui a des projets,
Blue Origin,
ont pu voir le jour,
oui,
Nicolas.
Absolument fondamental. Il y a deux choses, en fait. Il y a deux éléments qui sont à la base de cette montée du secteur privé. Il y a le fait qu'après l'échec de la navette spatiale américaine, la NASA a décidé de faire entrer le secteur privé dans le domaine spatial et de sous-traiter des services qui étaient jusque-là intégrés verticalement, en réalité, par les pouvoirs publics américains. Donc ça a donné, si vous voulez, de la place pour des acteurs privés. Donc c'est un élément, on va dire, d'ordre réglementaire. Et puis vous avez eu un élément d'ordre technologique, c'est le fait que tout ce dont on parle dans le numérique depuis longtemps, la loi de Moore par exemple, le fait que la puissance des microprocesseurs double chaque année, toutes ces technologies, elles ont pu être utilisées dans le domaine spatial. Et le génie d'Elon Musk, puisque au fond, enfin, on tourne autour du pot, mais enfin, le New Space aujourd'hui, il est très largement incarné par SpaceX et par Elon Musk. Même s'il y aura d'autres acteurs, je pense par exemple que Jeff Bezos avec Blue Origin, je pense que ça va être un acteur très important du monde spatial ces prochaines années. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt Elon Musk qui incarne ça. Son génie, ça a été de dire, au fond, les technologies spatiales sont des technologies fiables, mais ce sont de vieilles technologies. Notre ami Thomas Pesquet est parti dans un vaisseau Soyouz qui a été conçu, au fond, dans les années 60. Ah. Quand vous volez, quand vous allez partir en avion, vous n'allez pas partir dans des avions qui ont été conçus dans les années 60. Sinon, la compagnie que vous empruntez serait sur la liste noire de l'Union européenne. Et donc, l'idée absolument géniale d'Elon Musk, c'était de dire, mais je vais utiliser des technologies qui sont des technologies modernes. Alors, ça va être compliqué, ça va prendre du temps, ça va pas être sûr au début. Et d'ailleurs, on voit bien que chez SpaceX, contrairement à chez Arianespace, bah, de temps en temps, il y a un lancement qui rate et il y a un lanceur qui explose. Ouais, mais ouais. Ça, alors je vois ça avec beaucoup de recul en tant qu'économiste, je dirais que c'est l'histoire de l'innovation, hein. Ça se passe toujours comme ça. Alors quand vous avez un satellite à l'intérieur, je conçois que ce soit quelque chose de très désagréable. Mais, c'est un passage obligé. Mais donc, vous avez ces deux éléments, l'élément réglementaire et l'élément technologique, qui expliquent en effet ce bouleversement de l'économie spatiale.
Et le bouleversement également, l'idée géniale. Donc on l'a encore vu, la SpaceX, c'était il y a quelques jours, hein, qui vient d'envoyer de Cape Canaveral, justement, temple de la NASA, en Floride, un cargo spatial avec une fusée Falcon 9, déjà utilisée. C'était une première à l'époque. Et l'idée géniale, c'est finalement de rendre les vols spatiaux moins chers, quelque part, en réutilisant ces fusées. Vous avez pris un exemple, vous avez fait le calcul. On imagine qu'un Airbus A320 ne soit utilisé qu'une seule fois, comme ce qui se fait, quelque part, pour Ariane 5 ou les autres vecteurs.
Les traditionnels.
Dites-nous combien ça coûterait pour un billet d'avion.
Toulouse, j'ai pris l'exemple d'un Paris-Toulouse, les premiers prix seraient à 200 000 euros. Aujourd'hui, je ne veux pas citer de compagnie, mais sur une compagnie Orange, en vous y prenant quelques semaines à l'avance, vous payez 70 euros. Et oui, parce que l'Airbus A320, comme vous savez, il est réutilisé.
Ah bon? c'est comme ça, il ne le jette pas.
C'est ça. Ouais, mais vous savez, cette histoire-là, c'est fondamental. Parce que vous allez avoir une baisse importante du coût des lancements spatiaux. Et ça va ouvrir mais des champs absolument extraordinaires pour l'innovation spatiale qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Alors, on ne sait pas, au fond, quelles seront les applications spatiales dans 10 ans. C'est ça qui est fascinant.
Alors, c'est vrai.
Xavier Pascaud.
Je suis fondamentalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Juste apporter un petit correctif. Bon, le lancement spatial, c'est quand même pas du transport par avion en termes de contraintes particulières physiques sur ce qui se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pendant longtemps, d'abord, Elon Musk a récupéré ses étages. Et puis, effectivement, il a fait une réutilisation, ce qui était vraiment une première extraordinaire. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une activité qui va pouvoir soutenir ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir des acteurs, des grands opérateurs, mais je ne vous poserai pas la question à notre interlocuteur, qui seront capables de dire, moi, je suis d'accord pour utiliser, par exemple, ce lanceur qui a été réutilisé pour la 15e fois. Enfin, j'appelle ça, moi, des lanceurs rechappés un petit peu. On peut avoir des doutes sur ça. Ce qui est intéressant chez Elon Musk, c'est qu'il fait d'abord les choses, effectivement. Alors, il a les moyens de les faire. Et il ne fait pas simplement des études sur le papier pour voir si c'est viable économiquement, éventuellement, voire technologiquement. Il le fait.
Il le fait.
Il est suivi
par
des échecs. Mais du coup, il fait bouger les lignes. Eh effectivement. Oui. Et ça oblige l'ensemble des acteurs, et je pense que c'est l'un des effets les plus massifs, finalement, d'Elon Musk sur le marché, c'est que ça oblige à faire bouger les autres. Ouais, ouais. Et par exemple, en Europe, on a décidé de faire un lanceur plus compétitif, alors qu'il fera peut-être pas de réutilisation tout de suite, etc. Mais enfin, on bouge. Et finalement, aujourd'hui, le secteur spatial, j'allais dire, quoi qu'il arrive à Musk, il y aurait eu un avant et un après lui. Et ça, c'est vrai que la communauté spatiale qui vient de ce contexte très très rigide qui était celui de la guerre froide, elle bouge aujourd'hui générationnellement, technologiquement.
Eutelsat, allez-y, prenez la parole, Yann Leroy.
Donc nous travaillons avec ces trois acteurs.
Et c'est ce que je vais vous dire. Vous-même, vous êtes client de Blue Origin, de Jeff Bezos. Pourquoi c'est quoi votre intérêt d'être allé voir Jeff Bezos justement pour vos satellites, hein?
Alors je vais répondre à la question juste avant. Ce que je voulais juste signaler, enfin, pour nuancer un tout petit peu ce qui a été dit, effectivement la récupération du premier étage du Falcon 9 et sa réutilisation, c'est une prouesse technologique qui fait briller mes yeux d'ingénieur, évidemment, mais je ne suis pas convaincu du fait que c'est susceptible de changer fondamentalement l'équation économique du lancement. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que certes, lorsqu'on récupère le premier étage d'un lanceur, eh ben, on évite d'avoir à en construire un nouveau pour le prochain lancement, mais on perd également énormément en termes de performance sur le lanceur. La performance qui correspond à l'énergie qui est nécessaire pour contrôler le retour de ce premier étage. Et donc, il y a deux façons d'appréhender le sujet. Soit on fait comme SpaceX et on récupère le premier étage, mais on perd à peu près 40% de la performance du lanceur. Soit on utilise ces 40% de performance pour pouvoir lancer un satellite plus lourd ou un deuxième satellite. Et ça, c'est plutôt la solution qui est prévue au moins à court terme pour Ariane 6. Et puis, de l'autre côté, plutôt entre les deux extrêmes, que sont la réutilisation d'un côté et la non-réutilisation de l'autre, et plutôt l'utilisation de la performance pour faire des lancements multiples. Il y a Jeff Bezos, et là je réponds à votre question, le lanceur qui est prévu d'être développé par Blue Origin, New Glenn, aura à la fois une performance suffisante pour pouvoir lancer plusieurs satellites en même temps et en même temps récupérer le premier étage. Donc en fait, c'est l'espèce de combinaison entre le modèle économique qui a été choisi par SpaceX et celui qui est choisi par Ariane 6.
Mais on a parlé de Xavier Pascal, on a parlé de Jeff Bezos, on a parlé de Elon Musk. Et on voit un certain nombre d'acteurs qui se développent de plus en plus. Je regardais récemment, là, il y a quelques jours aussi, début juin, c'était Rocket Lab qui a fait décoller en Nouvelle-Zélande son premier lanceur Electron pour la première fois depuis un pas de tir privé. Lui s'est mis sur le créneau des fusées de petite taille et son fondateur, qui est un Néo-Zélandais, il s'appelle Peter Beck, il explique « Nous sommes une des rares entreprises à avoir développé une fusée en partant de zéro et nous l'avons fait en 4 ans ». Ça veut dire que quoi? Que chacun peut lancer maintenant, quelque part, sa société de lanceurs? Ça devient accessible? Ça devient abordable, n'est-ce pas?
Il y a beaucoup de projets, effectivement. On peut dénombrer presque une trentaine ou une quarantaine de projets de micro-lanceurs ou de petits lanceurs. Et il faut rappeler que si ces petits lanceurs se mettent à émerger, à exister, c'est parce que ces gens-là voient des petits satellites arriver et se disent que là, il y a un créneau pour, etc. Il reste à démontrer que le coût du lancement au kilo pour ces petits satellites sera compétitif avec ces petits satellites lancés sur des gros lanceurs. Mais néanmoins, effectivement, on voit ça. Et effectivement, on a aujourd'hui des technologies qui permettent, ou des ensembles technologiques qui permettent, en tout cas, de développer beaucoup plus rapidement, à des coûts beaucoup moindres, des technologies de lanceurs.
Comment ils font, par exemple, tiens, Nicolas Bouzou, justement, puisque vous nous disiez, ce défi spatial, il est économique également. C'est quoi le modèle économique? On sait que SpaceX, par exemple, arrive à faire à lancer des satellites avec 30 à 40% moins cher. Alors je ne sais pas s'ils cassent les prix ou si ça correspond à la réalité, je ne sais pas, dites-moi.
Non, je pense que je ne sais pas vous dire si, enfin, dans quelle mesure ils cassent les prix, parce que c'est très difficile d'avoir accès à ces données. Je pense qu'ils les cassent, mais je crois qu'il y a quand même un élément fondamental. C'est le fait, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée de base, c'est d'utiliser des technologies qui sont des technologies récentes, qui sont des technologies modernes, avec un arbitrage...
Dans l'électronique, dans l'énergie...
Oui, mais avec un arbitrage qui est très clair, notamment quand on compare par rapport à Ariane Espace. C'est-à-dire que vous payez moins cher et vous avez une qualité moindre. Voilà, c'est ça, si vous voulez, aujourd'hui, la logique SpaceX, Ariane Espace, vous payez cher et en revanche, vous avez une qualité qui est absolument exceptionnelle. Voilà, vous avez 100% de
dépôt d'échec extrêmement rare.
Cet arbitrage, alors juste, je voulais dire un tout petit mot, puisqu'on a parlé quand même de Jeff Bezos. C'est vrai que Elon Musk s'est très bien communiqué sur ces sujets et ce qu'il fait est extrêmement spectaculaire. Je pense quand même que ce qu'est en train de faire Jeff Bezos avec Blue Origin est vraiment très intéressant. Et Jeff Bezos, quand vous vous intéressez, moi je me suis aussi intéressé à la biographie de ces deux personnes. Jeff Bezos, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit beaucoup à l'avance, qui intellectualise beaucoup les choses, qui a des idées, une structure mentale extrêmement complexe. Et le fait qu'il mette, il met $1 milliard quand même par an, si vous voulez, dans ce projet Blue Origin.
C'est quoi les grandes lignes de Blue Origin?
C'est de l'argent. Ben justement, l'idée, c'est de faire des lanceurs qui soient compétitifs, mais en même temps extrêmement fiables. Mais en même temps, Blue Origin, il y a beaucoup de secrets sur Blue Origin. Jeff Bezos a gardé beaucoup plus de secret que Elon Musk, qui en fait vraiment un outil de communication. Mais je pense que voilà, là on a un acteur potentiellement extrêmement performant.
Il y en aura sur le prix pratiqué par ces acteurs.
Comme je disais, on leur achète des services de lancement. Oui. Donc il est vrai que Ariane 5 est plus cher que Falcon 9, mais il faut corriger de cela le fait que le taux d'assurance, voilà, le lancement, corrige en très grande partie cet écart de prix, parce que le taux d'assurance qui est payé par un opérateur de satellite qui lance sur Ariane 5 est inférieur à celui qu'il paye sur
compte tenu de la renommée, du succès de Ariane Espace,
du nombre de
lancements sans échec, quoi.
Effectivement.
Ouais. Parce que justement, à propos de d'Ariane Espace, numéro un mondial, bien entendu, grand acteur mondial. C'est une concurrence sérieuse, donc, que viennent apporter ces acteurs privés américains. Est-ce que cette place de numéro un mondial, elle pourrait être remise un jour en cause ?
Non, il y a aucun doute que le paysage d'Arianespace a changé. Ouais. Et qu'effectivement, aujourd'hui, Arianespace se trouve en butte à une compétition plus intense, non seulement de la part de ses acteurs privés américains, par exemple, mais aussi de la part du gouvernement indien avec son nouveau lanceur qui va permettre peut-être de déporter certains tirs de satellites qui se faisaient sur Ariane vers des lanceurs
indiens.
On voit les Japonais avoir ce projet aussi. Enfin, on voit quand même des gouvernements qui bougent et puis ces acteurs privés. Alors, la question intéressante quand même sur le prix, je voulais revenir là-dessus. Bon, SpaceX a une politique de prix vers l'acteur public et une autre politique de prix vers l'acteur commercial. C'est une première chose. Quand SpaceX vend des tirs au gouvernement américain, il se place à des niveaux différents, mais compétitifs avec le fournisseur classique Boeing Lockheed de tirs, mais un peu plus cher quand même que l'acteur privé. Et ce qu'on ne sait pas encore quand même complètement, c'est effectivement, est-ce qu'il casse les prix ? C'est-à-dire, en gros, est-ce que, par exemple, sur le tir qui a été fait de réutilisation, réutilisant l'étage, est-ce que c'était un vrai prix ? Qu'est-ce qui a été fait sur l'étage, etc. Alors, on a peut-être quelques détails, effectivement, et il y a peut-être des relations avec les clients, etc., mais ça reste quand même, tout ça reste pour l'instant. On n'est pas dans un marché de concurrence pure et parfaite. Hein,
vous, chez Eutelsat, on se retrouve dans un instant. Après, vous craignez aussi eh bien, de jeunes concurrents qui viendraient chasser sur vos plates-bandes quand même ? Je rappelle, vous êtes le numéro 3 mondial.
Alors nous, on voit plutôt la concurrence comme une vertu. Enfin, je pense que l'intérêt de l'arrivée de SpaceX, c'est que ça a servi de wake-up call pour Arianespace, pardon pour l'anglicisme.
Pas grave.
Et Ariane 6 n'aurait sans doute pas vu le jour sous cette configuration
si
Elon Musk n'avait pas commencé à mordre les mollets d'Arianespace.
Et pour vous, c'est pareil ? Il y a des acteurs qui pointent aussi.
C'est pareil, ça nous force à toujours être à identifier les innovations de rupture qui nous permettront de...
Eh ben, on parlera dans un instant justement de l'Eutelsat 172B, c'est tout nouveau, c'était tiré début juin. Satellite électrique, justement, est-ce qu'on assiste à un nouvel âge spatial ? Tiens, le nouvel âge spatial, c'est le livre de Xavier Pascaux qu'on va retrouver avec Nicolas Bouzou, avec Johan Leroy d'Eutelsat. Rendez-vous avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Est-ce qu'on assiste à un nouvel âge spatial ? Oui, on vous en parle dans les décodeurs de l'écho, puisque va démarrer dans quelques jours le grand salon du Bourget de l'aéronautique et de l'espace, hein, bien entendu. Marché considérable, on en a parlé, bien sûr, avec la chute du coût des lancements spatiaux qui a promis, qui va engendrer quelque part, eh bien, de très nombreux envois de satellites, plus et encore plus, c'est le cabinet Euroconsul qui tape d'ailleurs sur 560 lancements de satellites au cours des 10 prochaines années au profit de 40 groupes. Le marché est quasi infini, les usages extrêmement nombreux. On a parlé des télécoms, on a parlé de la télévision, bah oui, Eutelsat qui en est un grand acteur, l'internet pour tous, les objets connectés. On voit Nicolas Bouzou, vous êtes avec nous, vous êtes à la tête du cabinet d'études économiques Asterès, vous êtes un passionné d'espace. On voit que le business de l'espace, voilà, il ne connaît pas la crise.
Oui.
Je le disais, le salon du Bourget, c'est aussi le salon de l'aéronautique. Tiens, est-ce qu'on peut faire distinguer ? Est-ce que l'un se porte mieux que l'autre ?
Non, ça n'a absolument rien à voir. Alors, l'aéronautique se porte plutôt bien parce que le nombre de passagers dans le monde augmente et il a beaucoup augmenté ces dernières années avec le développement des pays émergents. Donc de ce point de vue-là, les choses se passent bien. Mais l'équation économique est fondamentalement différente puisque dans le domaine de l'aéronautique, l'innovation, c'est une innovation incrémentale. C'est-à-dire qu'on va pas voir d'innovation de rupture ces prochaines années dans le domaine aéronautique. Vous avez d'ailleurs, c'est très intéressant du point de vue technologique. Vous avez deux grands leaders, Airbus et Boeing, dont les technologies convergent de plus en plus. C'est-à-dire que Et ça, les pilotes, parce que je suis aussi un passionné d'aéronautique, les pilotes vous l'expliquent bien, ils vous disent, au fond, le pilotage des machines est de plus en plus proche. Donc, vous avez vraiment, aujourd'hui, une arrivée à maturité des technologies de l'aéronautique. Alors, il y a bien sûr des essais, il y a beaucoup de recherche et développement, les avions sans pilote, les avions sans hublot, etc. Mais c'est pas des choses qu'on va voir arriver tout de suite. Non, l'espace, ça ressemble aujourd'hui à l'aéronautique d'après-guerre, d'il y a 50 ou 60 ans. C'est-à-dire que l'aéronautique a connu deux grandes périodes au XXe siècle, une première période qui était la période des pionniers. Vous avez d'ailleurs une littérature française magnifique sur ces sujets-là. Mermoz, Saint-Exupéry, Kessel, la biographie de Mermoz par Kessel, Joseph Kessel explique ça de façon absolument extraordinaire. Donc c'est la période des pionniers où c'est très coûteux et c'est assez dangereux. Et donc ça, je dirais que c'est un petit peu l'histoire de l'espace qui est en train de se terminer. Et l'espace entre à mon sens, dans une période qui ressemble un peu à l'aéronautique de l'après-guerre, c'est-à-dire une période où on fait d'énormes progrès en matière de fiabilité et où en même temps on a une diminution des coûts qui va permettre à ce secteur de se normaliser, de devenir un secteur qui est normal. Et d'ailleurs, je vois de plus en plus... Tiens, j'étais avec le gouvernement luxembourgeois il y a quelques jours, je suis allé les voir justement pour leur parler de ce sujet-là. Les luxembourgeois, vous savez, ils sont très pragmatiques du point de vue de la politique économique. Il faut que ça rapporte de l'argent, c'est vraiment... Voilà. Et le développement d'un écosystème spatial fait partie des priorités du gouvernement luxembourgeois. Et dans le sud du Luxembourg, du côté d'Esch-sur-Alzette, je crois, vous avez à la frontière, c'est ça, oui, je sais que vous connaissez, pas très loin de la France.
Deux.
Ouais. Vous avez un écosystème qui est en train de se mettre en place, avec des problématiques qui sont des problématiques d'ordre technologique et aussi juridique. Parce que quand on va aller dans l'espace, il va aussi savoir un petit peu comment tout ça s'organise juridiquement. Aujourd'hui, ça n'appartient à personne. Est-ce que ça appartient à quelqu'un ? Est-ce que ça appartiendra à quelqu'un demain ? Donc vous voyez tout le champ qui est à défricher, et pas seulement du point de vue technologique, mais aussi du point de vue économique et juridique.
On reparlera tout à l'heure, s'il nous reste quelques minutes, est-ce qu'il y a une nouvelle géopolitique du spatial aussi qui se met en place. Yoann Leroy est avec nous, l'un des grands acteurs du spatial, puisque c'est le directeur général délégué de Telstar, qui est le numéro 3 mondial, donc opérateur de satellite. Nicolas, vous faisait réagir.
Oui, non, on peut juste signaler que un des points communs entre l'aéronautique et le spatial, c'est que ce sont deux industries de pointe, et deux industries de pointe pour lesquelles on peut se féliciter que l'Europe, et même la France, occupe une position de leader mondial.
Eh ben,
on a suffisamment peu...
Des prouesses technologiques, nous disait tout de suite Nicolas Bouzou. Après la bataille des lanceurs, est-ce que cette bataille de l'espace rejoint le terrain des satellites, justement. Tiens, Xavier Pascaud, vous publiez Le Nouvel Âge Spatial de la guerre froide au New Space. Vous êtes président de la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Oui, alors c'est clair. Ce qui se passe dans les lanceurs, en fait, se passe d'abord et surtout dans les satellites, dans le monde des satellites, où effectivement, pour un certain nombre d'applications, pas pour toutes, les progrès technologiques auxquels on faisait référence changent complètement la donne. En gros, aujourd'hui, la boîte à chaussures que vous évoquiez nous permet d'avoir
les nanosatellites,
les CubeSat, comme on les appelle. On installe dedans des caméras et on peut avoir des images qui donnent une précision de 3 mètres.
On va juste expliquer, parce qu'en effet, c'est le CNES, donc organisme public français, et un équipementier électronique qui s'appelle Nexeia, qui ont annoncé le mois dernier, c'était mi-mai, donc s'associer pour construire un nanosatellite, le Petit Angels. 25 kilos, une boîte de chaussures, 20 cm sur 30 cm sur 30 cm, pour développer ces nouveaux satellites. Comment ça fonctionne ? C'est à quelle fin que ça vit ?
Aujourd'hui, il y a une petite société donc américaine, une start-up, qui depuis quelques années lance des petits, encore plus petits satellites. Et l'idée générale, c'est de dire ben voilà, je vais lancer des petits satellites qui ne seront pas nécessairement très performants, pas aussi performants que ceux qui font plusieurs tonnes, mais je vais en lancer tellement que je vais pouvoir prendre des images en permanence de la Terre et je vais commencer à rentrer dans finalement l'ère d'une espèce de persistance de l'observation de la Terre. Et puis, on espère faire la même chose dans le domaine des télécommunications, mais ça, on le fait déjà avec les satellites géostationnaires, on veut le compléter par des satellites dans l'orbite basse. Tout ça évolue très vite.
Donc de l'observation, observation des animaux, observation des parcelles agricoles, environnementales.
Observation de tout type, observation économique, des infrastructures industrielles, permanence, connaissance, omniprésence, omniscience, etc. Et ça ne marche que parce que derrière, sous-tendant tout ça, les technologies de l'information, le big data, le traitement de données massif, etc., tout ça avance de concert. Et donc, ça donne du sens. Les technologies ont toujours existé, mais elles ne fructifient que lorsqu'on peut leur donner du sens. Et aujourd'hui, le soubassement des technologies de l'information, l'existence du web, l'existence de ces grands acteurs du web, donne du sens et éventuellement crée de la valeur économique et de la valeur, je dirais, financière à ces activités. Et c'est ça qui est tout à fait nouveau. Alors, pour l'instant, ça balbutie. On a quand même, l'autre jour, assisté à un lancement par un lanceur indien d'une centaine simultanément de petits CubeSats. Et on voit très bien, parce que ça a été filmé par les Indiens, ces petits CubeSats qui sont comme ça projetés en dehors du lanceur et qui vont vivre leur vie et prendre des images. Et aujourd'hui, on peut accéder directement par le net aux images de ces CubeSats. Et moyennant, finance des prix assez modiques. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous allez faire de ces images ? C'est sûr que observer la Terre tout le temps, c'est sympa, mais il y a des gens qui vont commencer à s'organiser pour les réutiliser, les fusionner avec d'autres données et faire de l'information. Ouais. Et aujourd'hui, l'information, c'est là où se trouve la valeur ajoutée. En tout cas, c'est le pari qu'on fait.
Vous y croyez, Yoann Leroy, c'est assez grave de satellites, alors qu'ils servent à faire de l'observation environnementale, des animaux, des transhumances, etc. On voit également, la dernière tendance, c'est de fournir du web à partir de l'espace avec des constellations, des grappes de satellites, ça aussi, et des satellites qui pèsent, en effet, 25, quelques 50, dizaines de kilogrammes. Quelques dizaines de kilos.
On y croit, on pense qu'il y a une utilité pour ce type de constellation, mais tout dépend des applications qui sont visées. On pense en particulier qu'il y a un marché qui est promis à un très grand essor, qui est celui de l'Internet des objets, ouais. où les communications qui doivent être établies entre les objets et le cœur de réseau sont limitées. Et on pense que pour ce type d'application, les satellites en orbite basse sont potentiellement plus utiles que les satellites en orbite géostationnaire. Pourquoi ? Très simplement, parce que...
Donc orbite basse, on est à quelle altitude ?
C'est quelques centaines à quelques milliers de kilomètres, typiquement. Il y a différentes stratégies qui sont envisageables pour bâtir ces constellations. Et pourquoi est-ce que ça fait plus de sens d'utiliser a priori une constellation de satellites en orbite basse plutôt que des satellites géostationnaires ? C'est que pour communiquer des informations, un objet a besoin d'avoir de la puissance disponible pour pouvoir envoyer un signal. Et plus le satellite avec lequel cet objet doit communiquer est loin, et plus la puissance nécessaire est importante. Donc il y a un intérêt fort à avoir des satellites qui sont relativement bas. Pour limiter les besoins de puissance de ces objets-là qui peuvent être par million.
La consommation d'Internet qui double tous les 3 ans, est-ce que vous dites chez Eutelsat, hein, cette fourniture d'Internet par satellite, elle pèse actuellement 12% de votre chiffre d'affaires. À terme, ce sera 20%. Tiens, parlez-nous de nouveaux satellites, puisque je le disais, donc cette bataille des lanceurs, ensuite c'est la bataille des satellites. Eutelsat 172B, donc construit par Airbus Defence et Space, premier satellite de télécommunication de forte puissance, tout électrique, fabriqué en Europe, qui vient d'être lancé sur Ariane 5, c'était début juin. L'idée, c'est quoi ? Alors, actuellement, un satellite, il est alimenté par quoi ? Et pourquoi, tout d'un coup, il passera à l'électrique ?
Alors, la plupart des satellites qui sont lancés aujourd'hui sont à propulsion chimique.
Bien.
C'est-à-dire que c'est le produit d'une réaction chimique qui permet au satellite de se déplacer. Un satellite, dans l'espace, il a besoin de se déplacer pour deux raisons. La première, c'est que lorsqu'il est lâché sur une orbite par le lanceur, que ce soit Ariane 5 ou un autre lanceur, il n'est pas placé sur son orbite définitive. Il lui reste encore pas mal d'efforts à faire pour rejoindre l'orbite géostationnaire, et ça nécessite de la propulsion. Et ensuite, une fois qu'il est arrivé là-haut, il faut être capable de maintenir son attitude et de corriger sa position. Et typiquement, c'est à peu près 2/3 de l'effort qui est nécessaire pour passer de l'orbite de transfert vers l'orbite géostationnaire et 1/3 qui est nécessaire pour maintenir sa position pendant les 15 années de sa vie. Donc on comprend qu'il y a besoin de beaucoup d'énergie au début. Donc jusqu'à présent, c'était la propulsion chimique, technologie éprouvée qui était utilisée, qui a un gros avantage qui est la puissance, qui permet de monter très rapidement vers l'orbite géostationnaire, et donc typiquement en une dizaine de jours, on arrive à sa position définitive, mais qui avait un avantage. Un inconvénient, qui est le fait que la masse qu'on doit embarquer en termes de carburant est très importante. Et donc, dans les satellites qui existent aujourd'hui à propulsion chimique, qui font 6 tonnes, il y a à peu près la moitié de la masse qui est constituée uniquement de carburant. Donc, il n'y a que la moitié de la masse, le complément qui correspond à de la charge utile.
Et ce 172B, il fait 3,5 tonnes. Donc, finalement, on divise par 2. Donc, nécessairement, on va diviser par 2. Le coût de production et peut-être le coût de mise en orbite.
Alors, on ne le divise pas tout à fait par deux, parce qu'il y a des économies d'échelle qui fonctionnent, mais on le réduit très fortement.
On les réduit.
C'est typiquement 20% d'économie.
20%,
que l'on fait,
bon, j'étais loin, bien
lorsque,
fait.
Lorsque l'on économise, lorsqu'on utilise la propulsion électrique au lieu d'utiliser la propulsion chimique.
Et à terme, on nous dit que la propulsion électrique pourrait représenter, en 2020, c'est-à-dire en 3 ans, 50% donc du marché des satellites. Et on voit comment Européens et Américains misent sur cette propulsion électrique. Oui, l'Europe, on en parlait, de la réaction de l'Europe. Tiens, Nicolas Bouzou, vous nous en parliez tout à l'heure, parce que, voilà, ce que vous dites, c'est se joue une partie de l'avenir économique du continent dans l'espace. On a des atouts, on l'a vu avec le satellite électrique, hein, qui est très français, c'est une filière française, développée par Airbus, par Thales, Alenia Space, par Safran, soutenue par le CNES, on voit. L'Europe, elle sait réagir. Est-ce qu'elle pourra reprendre la main, notamment grâce à son Ariane 6, dont le programme a accéléré, c'est 2020 fait. Normalement.
On a des atouts technologiques, c'est clair. En même temps, l'Europe a mis un peu de temps quand même à bien accepter l'idée qu'il y avait une révolution du New Space. J'ai quand même eu beaucoup de discussions avec des responsables européens ces derniers mois et ces dernières années. Jusqu'à un passé extrêmement récent, il y avait cette idée quand même selon laquelle ce que faisaient les Américains, c'était du marketing. SpaceX, tous les lanceurs allaient exploser.
On y croyait
pas. Jeff
Bezos,
pour l'instant, on n'avait rien vu, si vous voulez. Donc, alors ça, je pense que c'est terminé.
J'ai interrogé à plusieurs reprises Stéphane Israël, le patron d'Ariane Espace, dans son studio, à plusieurs reprises. C'est vrai qu'au début, il n'y croyait pas du tout. Enfin, en tout cas, il disait qu'il n'y croyait pas. Après, peut-être qu'il avait quelques réserves. Je ne sais pas si je l'interrogeais maintenant.
On ne peut évidemment pas parler pour lui, parce que ce serait très mal aimé. Mais on avait eu ce débat sur votre plateau, Fabrice.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, voilà. Et voilà, j'avais peut-être senti qu'il n'était pas tout à fait convaincu, mais voilà, faudrait lui reposer la question. Mais c'était assez symptomatique quand même du réflexe d'un certain nombre de dirigeants européens, à une exception près quand même, c'est très intéressant, parce que c'est quelqu'un que je connais bien et qui, dès le début, a cru notamment aux lanceurs réutilisables. C'est Jean-Yves Le Gall qui dirige le CNES, le Centre National des Études Spatiales en France, voilà, et qui a toujours été, je trouve, extrêmement proactif, et qui notamment très tôt a dit qu'il fallait vraiment qu'on mette en place une Ariane 6. Donc ça, c'est quand même très, très important à signaler.
Alors je trouve que ce qui manque de la main, cette Ariane 6, c'est un enjeu de souveraineté pour l'Europe.
Oui, c'est un enjeu de souveraineté. Il y a deux enjeux de souveraineté. Il y a l'enjeu de souveraineté technologique, et puis il y a trois enjeux de souveraineté, pardonnez-moi. La souveraineté technologique, la souveraineté juridique, je le disais tout à l'heure, mais vous avez quand même certains pays qui commencent à se dire, au fond, peut-être qu'il va falloir faire avec l'espace ce que les États-Unis ont fait avec la conquête de l'Ouest au 19e siècle, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, mais quand vous allez quelque part, si par exemple demain on décide de mettre en place une station permanente sur la Lune, ça fait partie, il y a des projets, notamment justement au niveau européen, Claudie Aigneret par exemple porte ça. Bon, on va sur la Lune, on installe une station. À qui ça appartient? À qui ça appartient? La logique américaine, qui à mon avis est la meilleure du point de vue philosophique et économique, c'est de dire, le premier qui arrive, le premier qui l'exploite économiquement, il devient propriétaire. Oui, et je pense que
69,
c'est...
69, voilà.
Voilà, exactement, ça me paraît extrêmement défendable. Mais vous comprenez bien que si ça se passe comme ça, il faut être parmi les premiers. Donc vous avez cet enjeu-là, et puis très rapidement... parce que ça, je trouve que c'est un sujet central. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est passé avec Thomas Pesquet, le fait que les Français ont été passionnés par cette histoire, le fait que vous, médias, vous l'ayez beaucoup relayé, le groupe Next Radio a été notamment BFM TV.
Ils ont fait un carton d'audience
exactement.
Le vendredi.
Et c'était absolument formidable. Ça, c'est très important, parce que les Européens, en général, et les Français en particulier, il faut les réconcilier avec l'avenir. On a beaucoup parlé des commémorations ces dernières années, mais si on veut les réconcilier avec l'économie, il faut les réconcilier avec les technologies, il faut leur montrer ce qui se passe. Et ça, vous voyez, l'espace, c'est quelque chose qui fait rêver, ça intéresse tout le monde. Et en Europe, on est en train de chercher en ce moment des projets concrets pour relancer l'Union européenne. Il y en a un qui commence à bien fonctionner, c'est la défense. Il y a eu un livre blanc de la défense qui a été présenté la semaine dernière par la Commission européenne. Il y en a un deuxième qui me semble passionnant, c'est l'espace.
Oui, Xavier Pascaud, c'est au président de la Fondation pour la Recherche Stratégique que je m'adresse. On l'a vu pour l'Europe, le défi spatial, il est aussi géopolitique. On vient d'entendre Nicolas Bouzou. On voit une soixantaine de pays qui disposent aujourd'hui d'un programme spatial, avec là aussi des nouveaux acteurs étatiques. Il n'y a pas que les Jeff Bezos et Elon Musk. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a le Japon également.
Bien sûr. Pour l'Europe, comme pour tous ces pays, accéder à l'espace de manière autonome, c'est d'abord une obligation si vous voulez ne pas dépendre du bon vouloir d'un fournisseur étranger pour vous faire accéder et placer votre satellite en orbite. Maîtriser toutes les technologies industrielles qui permettent de construire des satellites qui fonctionnent bien et qui vous permettent finalement d'avoir une posture sur la scène internationale. Prenons un exemple. Vous avez des ambitions militaires, même au niveau européen, pour être un pays un peu leader dans le domaine militaire, pour etc. Eh bien, par exemple, il faut être capable d'entrer en premier dans un pays, etc. Donc il faut des moyens spatiaux pour ça. Et de là, vous déclinez toute la chaîne de souveraineté. Et là, on est au cœur du géopolitique d'aujourd'hui.
Outil de soft power aussi, Nicolas Bouzou. On va terminer avec
Oui, complètement. Ouais. C'est là où on voit bien. Alors même l'influence, si Thomas Pesquet, comme on en a beaucoup parlé en France. Voilà. Mais bien évidemment, et vous avez raison de rappeler que 60 pays ont un programme spatial aujourd'hui. Ça veut dire que la mondialisation, et notamment la montée en puissance des pays émergents, elle a des conséquences tangibles sur ce type d'industrie de pointe. Trois pays il y a quelques dizaines d'années, 60 pays aujourd'hui.
Aujourd'hui, bon, il y a quand même des leaders.
Les Émirats, par exemple, qui sont très, tout juste. Voilà, exactement, bien sûr, qui investissent beaucoup dans ça.
Et Eutelsat, vous déployez aussi, notamment sur le marché chinois, très présent aussi là-bas. Un mot très court.
On a des discussions en cours, effectivement, avec des partenaires chinois, parce que le marché chinois est un marché, lorsqu'il s'ouvrira, qui sera un marché très important pour le satellite.
Bon, le Salon du Bourget qui démarre dans quelques jours, donc, qu'on suivra évidemment sur BFM Business, à la télé, à la radio. Xavier Pascaud, donc président de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui vous propose le nouvel âge spatial de la guerre froide au New Space. Nicolas Bouzou avec nous à la tête du cabinet d'études économiques Asterès. Merci à Yann Leroy, directeur général délégué d'Eutelsat, qui est le numéro 3 mondial du secteur. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290 € par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000 euros suivi de 36 loyers de 290 euros réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.